courbons maintenant nos têtes pour la prière. Notre Père Céleste, nous estimons cela comme un grand privilège de ce que nous pouvons nous tenir ici parmi ceux qui sont sauvés et que nous pouvons chanter ces vieux cantiques dans l'église. Seigneur, je crois. Nous voyons que la foi qui a été transmise une fois pour toutes à nos pères par tous les différents âges a vécu dans tes enfants. Comme nous l'avons entendu dans le cantique, nous sommes en chemin vers Cana et nous te prions, Père, si aujourd'hui quelqu'un serait ici qui n'a pas encore pris cette décision et qui n'est pas encore venu de seulement pouvoir croire et de croire seulement la parole. C'est ainsi que je te demande que cela puisse avoir lieu maintenant, là où ils pourront prendre cette décision finale et recevoir Christ Jésus en tant que leur rédempteur, leur sauveur personnel et être rempli du Saint-Esprit. Nous te remercions aussi pour ce groupe des hommes d'affaires chrétiens du plein évangile qui sont ici aujourd'hui, car eux aussi, ils font en sorte que ce plein évangile soit prêché. Nous te remercions de ce qu'il y a encore des hommes d'affaires qui se prennent du temps pour te servir et pour parler de cela aux autres et qui mettent leur temps et leur argent à ta disposition pour aider beaucoup d'hommes à te rencontrer, pour que beaucoup entrent dans le royaume de Dieu. Nous te remercions pour les frères dans le ministère qui sont ici aujourd'hui et ceux qui tiennent la flamme allumée dans cet âge obscur pour que le chemin qui mène à la gloire reste illuminé. Père, bénis tous les membres de l'église du Dieu vivant et aussi ceux qui se sont ajoutés de manière nouvelle. Et pendant que nous sommes ici en train d'ouvrir la Bible, que tu puisses toi-même partager apporter ta parole selon que nous en avons besoin. Et quand notre chemin va arriver à sa fin, que nous irons dans la gloire, que de nouveaux enfants naissent dans le royaume de Dieu. Peut-être qu'il y en a quelques-uns ici ce soir qui sont très malades et qui ont besoin d'être touchés par toi, le grand médecin, qu'ils puissent recevoir leur guérison. Nous te le demandons, Seigneur, nous t'apportons l'honneur dans l'humilité, parce que c'est à toi seul qu'appartient l'honneur dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'un des plus grands jours de ma vie, le plus grand temps de ma vie, quand je peux me tenir devant le peuple de Dieu pour les servir. Car Jésus-Christ est la joie de ma vie. Et de leur dire ce qui signifie pour moi. Et j'ai aussi le privilège donc de partager cette joie avec d'autres qui l'ont peut-être pas encore reçu. J'ai avant vécu sur ce nom que j'étais donc un jeune prédicateur, mais cela est passé maintenant depuis très longtemps. Souvent j'ai pu mentionner cela, mais maintenant je suis le vieux prédicateur. Je suis devenu le vieux prédicateur. Chaque jour, il a mis un nouveau cantique dans ma bouche. Et chaque jour est plus beau que le jour précédent. Et quand je regarde au coucher du soleil et que je sais que ma vie doucement va vers sa fin, Christ devient pour moi toujours plus précieux. Jour après jour, j'ai le privilège de me tenir devant beaucoup de personnes et aujourd'hui aussi ici, devant beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens et de parler avec eux, d'avoir la grâce de parler de ce que me signifie plus que toute autre chose dans le monde, de parler de la vie éternelle. Je ne crois pas qu'il y aurait quelque chose de plus grand que ça sur laquelle je pourrais penser qu'en dehors de la vie éternelle. Quand vous êtes jeune, vous pensez que oui, tant que peut-être que quand vous êtes des enfants, vous jouez à ceci, à cela. Les jeunes petites filles ont leurs poupées etc. Ensuite arrive l'éducation, ensuite l'école, et ils apprennent un métier, et après, ils se posent la question, qui est-ce qu'elles vont marier, etc. Et après, ils doivent s'occuper de payer le loyer. Et après, vous vieillissez. Mais je suis reconnaissant de ce qu'il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de réel. Quand tout cela, ici sur cette terre, sera passé, qui nous signifiera plus, qui nous signifie plus que tout le reste. Tout le reste, c'est vrai, est nécessaire pour cette vie ici terrestre. C'est important qui est le père et qui est la mère de nos enfants, etc. Et que les enfants soient éduqués et aillent à l'école, etc. Mais tout cela va passer. Mais la vie éternelle, elle est demeure. Et c'est justement la chose la plus grande. Cela m'a satisfait alors que j'étais jeune. C'était ma satisfaction. Aussi, alors que j'étais un peu plus grand, de savoir que quand ma vie sera passée, je serai heureux de rencontrer celui qui a réjoui ma vie. Oui, le frère Tony, le président ici du Texas, je suis heureux d'être avec lui ensemble, et avec le frère Carl Williams et d'autres qui sont ici présents. Ici, il y a beaucoup qui sont représentés de différentes villes et églises. J'ai parlé une fois, et cela c'était à Circle Rocks Axon. C'était dans un auditorium là-bas. Il y avait eu un homme qui avait été guéri, qui avait marché pendant des années sur des cannes. Et il avait vendu des petites choses, des crayons, etc. Dans la rue. Il était complètement paralysé, il ne pouvait pas lui-même se déplacer, et il est arrivé un soir dans la réunion, et il est passé par la lignée de prière et il a été guéri. Et le jour prochain, il a porté sa canne sur son épaule, et il a rendu témoignage dans la rue. Et quand je parlais le prochain soir, il m'a interrompu. Il m'a dit, frère Branham, écoute, je suis un peu un peu en train de réfléchir. Alors que tu parlais, je pensais que tu étais nazaréen parce que c'est ce qu'il était. Et ensuite, j'ai vu ici beaucoup de pentecôtistes dans l'assemblée. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu es pentecôtiste. Et après, j'ai entendu que tu as dit toi-même que tu avais été ordonné dans l'église baptiste. Je suis complètement confondu. Qu'est-ce que tu en fais? Je lui ai dit, mais ça, c'est très simple. Je suis un pentecôtiste baptiste nazaréen. Vous voyez, je suis tout cela ensemble. Vous voyez, alors que j'étais allé au pentecôtiste il y a des années passées, le Seigneur m'avait envoyé parmi eux, car c'est à cela qu'il m'avait déterminé, pour prier pour ces enfants malades. Et les dénominations, les églises avec lesquelles j'étais autrefois, ne croyaient pas à la prière pour les malades, et ne croyaient pas à la guérison divine. Pour eux, tout cela était étranger, et ils m'ont dit, mais maintenant tu vas jouer le rôle d'un saint, etc. Peut-être que je le suis devenu, je ne le sais pas. Mais je suis heureux tel que je suis. Il y a quelqu'un qui me disait que j'ai perdu la pensée normale. Je dis, bon, laissez-moi seul, car je suis satisfait. Je suis encore plus satisfait que je le suis, que je l'étais auparavant. Je me sens vraiment très bien dans le Seigneur. Il y a de la joie, une joie inexprimable dans mon cœur et dans mon âme. Mais alors que j'étais allé au pentecôtiste, je pensais que c'était seulement un seul groupe qui existait parmi eux et qu'il n'y avait pas de division. Et j'ai dû constater qu'il y avait différentes divisions, différents groupes de pentecôtistes, comme je l'avais déjà vu parmi les baptistes et les autres confessions. Je ne voulais pas prendre parti pour n'importe quel groupe parmi eux, mais je voulais être parmi eux tous et dire, nous sommes tous des frères. Et ça, c'est ma disposition depuis toujours. Ça a toujours été ma disposition depuis toujours. La grande église du Dieu Tout-Puissant est unie dans la prière et dans la prédication. Et les hommes d'affaires du plein évangile, ils ont leur organisme, leur organisme. Ils ne sont pas une organisation, mais ils sont un organisme. Et ils ont comme ça uni tous les différents groupes. Ils ont lié tous les différents groupes. Et ils m'ont donné la place, ils m'ont pris comme sous leurs ailes. Et je suis heureux pour cette occasion que j'ai avec eux ensemble, car ici je peux donc exprimer la foi de tous ces différents groupes. Et ça, c'est pour moi quelque chose d'important. Je n'appartiens à aucune organisation, mais avec eux, je suis. Partout où je vais, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, j'étais il n'y a pas longtemps en Afrique du Sud. Et là-bas, le Seigneur nous a donné l'une des plus grandes réunions que nous avons jamais eues auparavant. C'était en Afrique du Sud, où 30 000 tribus presque habillées, presque nues, ont consacré leur vie au Seigneur. Et le prochain jour, Smix, le maire de la ville, m'a appelé à l'hôtel. Et il m'a dit, regarde à ta fenêtre ce qui se passe. Et il m'a dit, va vite, regarde ce qui se passe. Et là-bas, il y avait eu 7 camions poids lourds de l'Angleterre remplis de chaises roulantes et de cannes. C'était des instruments que les gens avaient utilisés, qui étaient malades, qui étaient paralysés, etc. Et les guéris marchaient derrière ces camions avec les mains élevées. Ils étaient habillés normalement et ils ont chanté « crois seulement, quoi, toutes choses sont possibles à celui qui croit. » J'ai dit « Oh Seigneur, ça c'est un jour que je ne vais jamais oublier. » Là-bas, nous avions eu 3 jours et je devais repartir. Mais pendant ces 3 jours-là, beaucoup de choses se sont passées. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé, mais cela s'est passé par les miracles que le Seigneur a fait sur la plateforme. Il y a un miracle qui, particulièrement, a fait en sorte que, vraiment, je ne peux pas oublier cela. Il y a un jeune qui était venu, qui marchait presque comme un chien. Il était tellement courbé et paralysé. Il a été guéri sur la plateforme à l'instant même. Et ces hommes-là, qui autrefois en tant que tribu, étaient en dispute et en querelle les uns contre les autres. Après cette réunion, ils ont été en paix, ils se sont réconciliés, ils se sont serrés dans les mains et ils ont chanté ensemble, crois seulement. Oh, cet évangile merveilleux ne guérit pas seulement le corps, mais guérit l'âme et réconcilie. Oh, la puissance, la ressource du Seigneur Jésus-Christ n'a pas perdu sa valeur. Elle a la même puissance et elle se manifeste encore aujourd'hui. Cela est devenu toujours plus moi, devient toujours pour moi plus précieux jour après jour. Aujourd'hui, nous sommes ici en tant qu'hommes d'affaires chrétiens. Ça n'a pas d'importance qui est-ce que vous êtes. Je voudrais vous dire, consacrez votre vie au Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça n'a pas d'importance à quelle église vous appartenez. Et si cet organisme a le titre, a le nom, homme d'affaires chrétien du plein évangile, que ce soit que vous soyez baptiste, presbytérien, méthodiste, catholique, ou qui que vous soyez, prêtre, Jacob, c'était celui qui avait creusé un puits dans Genèse. Et les Philistins sont venus et ont pris le puits. Il en a puisé un autre, creusé un autre. Il en a creusé encore un autre. Et il a dit, il y a assez de place pour nous tous. Vous voyez? C'est ainsi que nous sommes reconnaissant de vous avoir ici dans Genèse 26, c'est écrit, Genèse chapitre 26. Ça n'a pas d'importance où est-ce que vous soyez. Nous serons heureux d'avoir communion avec vous tous. N'oubliez pas les réunions à Phoenix. Je sais que ici nous ne faisons pas de la réclame de la plateforme, car cela n'est pas permis, de la publicité. Mais il y aura différentes réunions qui auront lieu. Et je serai à Phoenix pendant 4 jours, je prêcherai là-bas et je prierai pour les malades. Il donne maintenant à Frère Branham les dates des différentes réunions. Pendant 4 jours, nous serons là-bas à Phoenix. Et nous attendons que Dieu bénisse et il bénira pour vous de tout son. Le dimanche prochain, je serai dans l'Assemblée de Dieu, dans l'Assemblée là-bas chez le frère Adolf Marx. Je prierai et je pour les malades, je prêcherai. Bon, que les bénédictions de Dieu se reposent sur vous tous. Si vous voulez ouvrir la Bible avec moi, je voudrais me dépêcher pour venir à la parole et ne pas vous retenir longtemps. Je voudrais lire dans Romains le chapitre 8. Romains le chapitre 8. Nous commençons avec le verset 28 jusqu'au verset 32. Romains 8, verset 30, 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Que le Seigneur puisse accorder sa bénédiction à la lecture de sa parole. Je voudrais parler de ce sujet, sur le sujet le pardon. Ici, la Bible dit que tout nous a été pardonné en Christ Jésus. Tout nous a été donné. Nous ne pouvons pas ici parler de tout, mais ici, je voudrais souligner quelque chose. Il nous a donné tout. Et ça, c'est le pardon que nous avons reçu. Je ne peux pas ici parler de toutes choses qu'il nous a donné en lui, mais d'avoir reçu déjà le pardon, c'est quelque chose de merveilleux. Car tous nous étions en faute, tous nous avions péché, et nous étions privés de la gloire que Dieu accorde. Mais Dieu, dans son Fils, nous a pardonné. Il nous a pardonné nos fautes et nos péchés. Et ce pardon-là me rappelle à une histoire que j'avais lue pendant la guerre, pendant la Révolution. C'était un soldat qui avait fait quelque chose par lequel donc il a été apporté et il a été déclaré coupable. Pendant le combat, il a quitté son poste et par cela déjà l'adversaire a pu comme ça commettre beaucoup de dégâts et il devait donc être condamné et être mis à mort. Et son ami a été en détresse d'une manière qu'il est allé auprès du président Lincoln, Abraham Lincoln, et le président Abraham Lincoln était un chrétien, et il s'est courbé devant sa face, et il a dit, Mister Abraham Lincoln, président des États-Unis, je vous demande de la miséricorde de la part de Dieu. Je sais que vous êtes un chrétien et que vous avez un cœur doux, et vous faites miséricorde à ceux qui sont en faute. Mon ami n'aurait pas dû quitter son poste. Il aurait dû rester sur son poste en tant que soldat. Mais quand les coups de fusil, etc., ont retenti et les canons se sont fait entendre, il a eu peur et il a fui. Et il a dit, Monsieur Lincoln, ça, il n'a pas voulu le faire. Ça, il n'a pas voulu, il n'avait pas l'intention de le faire. Mais maintenant, il doit mourir et être fusillé. Il y a seulement une seule possibilité pour qu'il soit sauvé, c'est que vous puissiez signer. Prendre la décision et signer de lui faire miséricorde. Et M. Abraham Lincoln n'a pas réfléchi longtemps. Il a pris une feuille simple et il a signé, moi, Abraham Lincoln, je pardonne cet homme qui ne soit pas fusillé. Et il a signé Abraham Lincoln, président des États-Unis. Et ainsi, l'ami qui est allé à lui l'a béni. Donc, il est allé à son ami dans la prison. Et il lui a dit, j'ai ton pardon ici. Il a sorti la feuille. Et l'homme a dit, s'il te plaît, ne fais pas de blague avec moi, je dois mourir demain. Il a dit, non, je ne crois pas. Le président dit, mais je ne crois pas ce que tu me racontes. Chacun peut signer comme ça, Abraham Lincoln, et mettre ça sur une feuille. Il dit, mais non, écoute, j'étais sur le président. Ça, c'est la signature du président de sa propre main. Tu es libre, tu es... Il t'a été pardonné. Il a refusé son pardon, il a dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et réellement, il a été fusillé. Cela a eu lieu le prochain jour. Et ensuite, il y a eu le procès verbal. Et les juges, ils ont demandé, mais pourquoi est-ce que cette personne que le président avait pardonné a été malgré tout fusillée? Et cela a été la décision du juge. Un pardon n'est pas un pardon si ce n'est qu'il est reçu. Il est reçu en tant que pardon. Aujourd'hui, j'ai lu que Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné avec son Fils. Tout ce dont nous avons besoin, le pardon et tout. Mais il faut que tout cela soit accepté, reçu, quoi, cru. Justement, de le lire dans la Bible ne signifie pas que vous avez reçu votre pardon. Vous devez, en tant que votre pardon, le recevoir. Car Dieu a votre place à laisser mourir son Fils. Et vous le recevez. Vous êtes libre des fautes, du péché. Vous voyez, c'est un pardon de Dieu adressé à votre personne. Pas seulement que vous le recevez comme ça de manière psychologique, ou bien par une doctrine, ou bien alors par une sensation. Non, que vous pensez d'avoir fait quelque chose de juste, ou bien d'avoir appris une confession de foi. Non, non, c'est d'être délivré de la nature du péché. C'est d'être délivré de la faute. Il n'y a plus de faute en vous. La Bible dit que nous sommes justifiés et qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ, qui sont devenus une nouvelle création, qui marchent selon l'Esprit, qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'Esprit. Romains 8, verset 1. Alors, si la délivrance du péché et de la faute a réellement eu lieu, alors dans l'homme ou bien de la femme, il n'y a plus le désir de pécher. Vous êtes devenus de nouveau créature en Jésus-Christ. Hébreux 9, Apocalypse chapitre 1. Délivré du péché. Et vous avez levé vos mains vers Jésus-Christ qui est assis à sa droite de sa majesté. Vous êtes délivré. Aucun prêtre n'a besoin de vous le dire. Aucun prédicateur n'a besoin de vous le dire. Vous savez intérieurement, profondément dans votre cœur, que vous avez accepté le pardon en tant que don de Dieu que Dieu a envoyé par Jésus-Christ. Oh, quelle sensation! Quelle sensation d'être délivré du péché! Il m'a été dit, alors que autrefois la proclamation avait été signée que l'esclavage est aboli en Amérique. Et ce matin-là, au lever du soleil, à cette date bien donnée, le jour de l'esclavage devait être aboli en Amérique. Et dans cet article-là, j'ai lu que des hommes sont allés sur les sommets des montagnes les plus élevées pour pouvoir voir déjà de loin le plus rapidement le lever du soleil, pour pouvoir voir déjà leur liberté. Le lever du soleil représentait leur liberté. Et ils ont attendu déjà avant l'aurore pour pouvoir savoir qu'ils sont vraiment délivrés. Et dans cette programmation, dans ce journal, il a été dit que pendant ce jour, il leur a été dit qu'avec le lever du soleil, ils sont levés. Ils sont allés sur les montagnes les plus élevées pour voir le lever du soleil de ce jour-là bien précis pour expérimenter l'abolition de leur esclavage. Oh, vous pécheurs, si nous pouvions être occupés, être en souci de monter dans la présence de Dieu et d'expérimenter le lever du soleil, d'expérimenter la puissance de la résurrection et d'expérimenter votre pardon personnellement avec Dieu. Il est écrit que des jeunes sont allés jusqu'au sommet des montagnes. Pour là-bas, ils ont vu d'abord le soleil. Comment est-ce qu'ils ont crié? Ils ont vu le soleil. Et dès qu'ils ont vu le soleil se lever, ils ont crié aux autres qui étaient en bas. Nous sommes libres, nous sommes libres. Le soleil est en train de se lever, nous sommes libres. Des hommes avaient été vendus au péché et dans le péché. Mais le Fils de Dieu est ressuscité des morts pour notre justification. Romains 4. Comment nous devions le dire à toute la nation? Nous sommes libres du péché et des fautes. Il nous a été accordé le pardon par Golgotha. Il n'y a pas quelque chose de plus grand que l'humanité aurait pu rencontrer et recevoir. Les hommes ont péché déjà dans le jardin d'Éden. Ont dépassé les limites et ont transgressé la parole de Dieu. Ils ont été par cela séparés de l'Éternel. Les hommes étaient d'abord éternels avec Dieu. Ils n'avaient pas de maladie, ils n'avaient pas de mort, il n'y avait pas de faiblesse. L'homme n'a pas été fait pour mourir. Et l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Car les hommes ont été créés pour être des fils et des filles de Dieu. Mais quand l'homme a péché et ont dépassé ces frontières-là de Dieu qui faisait la différence entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, c'est ainsi qu'ils se sont séparés de la communion avec Dieu. Ils n'avaient plus de possibilité de revenir à Dieu de même. L'homme était parfaitement perdu. Il ne pouvait plus à cause du péché revenir à Dieu. Mais Dieu, riche en miséricorde, comme c'est écrit dans Éphésiens 2, a eu un sacrifice à la place de l'homme. Car le jour où vous mangez de cet arbre, vous devriez mourir. Et c'est ainsi que cela s'est passé. La sainteté de Dieu a rendu cela nécessaire, a exigé cela de l'homme à cause de sa parole. Et il doit garder ce qu'il dit, faire ce qu'il dit. Et c'est ainsi qu'il a eu un sacrifice à la place de l'homme. Dieu a prouvé son amour, a révélé son amour à l'humanité. Ils étaient séparés de lui, car Dieu avait communion avec ses enfants. C'était vraiment un état qui a brisé le cœur de Dieu pendant toutes ces différentes années. Mais sa parole dit, le jour où vous mangez, vous devriez mourir. Le jour où vous mangez de cet arbre, vous devez mourir. Vous mourrez. Nous devons toujours croire ce que Dieu dit. Tout ce que la Bible, tout ce que la parole de Dieu dit est vrai. Dieu ne peut pas briser sa parole. Dieu ne peut pas reprendre quelque chose qu'il a prononcé. Il est infini, il est éternel. Sa première décision est une décision éternelle. Il n'a pas besoin de la corriger, de la reprendre. Il ne peut pas non plus apprendre après avoir décidé quelque chose, d'essayer de rectifier. Non, il est parfait déjà depuis le commencement. Ce que Dieu dit est parfait et ça ne peut pas être transformé et changé. C'est une décision parfaite déjà depuis le commencement. Tel que Dieu agit ou bien alors se comporte avec les siens. C'est ainsi qu'il doit le faire toujours jusqu'à la fin, tel qu'il a dit déjà et l'a fait déjà depuis le commencement. Si il a montré, il a frayé à l'homme, aux premiers hommes, un chemin pour leur salut, pour les sauver, tel qu'il a fait au commencement du jardin d'Éden, c'est ainsi que cela doit demeurer pendant tout le temps. Si Dieu guérit les malades sur le fondement de la foi, s'il a promis la guérison sur le fondement de la foi, il doit toujours ainsi le faire. Il ne peut pas encore changer et trouver une autre solution. Non, il doit demeurer le même. Bon, Dieu avait pris un sacrifice à la place de l'homme déjà dans les années d'Éden. Et c'était un sacrifice qui avait été apporté pour eux. Le sang a coulé par l'animal qui avait été apporté là. Il n'y a pas d'autre possibilité de revenir en communion avec Dieu en dehors du sang versé de l'agneau de Dieu. Seulement sur ce chemin-là, il agrée ses enfants de nouveau. Il les reçoit. Il n'y a pas d'autre prix, il n'y a pas d'autre possibilité. La première décision de Dieu est juste et elle est éternelle et elle est vraie. Dieu ne peut pas mentir, il ne peut pas reprendre sa parole. Dès qu'il a frayé un chemin de pour sauver l'homme au commencement, c'est ainsi que cela doit rester jusqu'à tout le temps. Si Dieu a, sur le fondement de la foi, promis la guérison aux malades, il faut que cela reste toujours ainsi. Il ne peut pas reprendre sa parole. Il doit demeurer le même. Bon. Dieu a pour l'homme dans le jardin d'Éden préparé un sacrifice à la place de l'homme. Et c'était un animal qui avait été apporté. Le sang a coulé. Le sang de l'animal qui avait été apporté. Et Dieu a agréé cela. Et il n'y a pas d'autre possibilité pour revenir en communion avec Dieu que seulement par le sang versé de l'agneau de Dieu. Seulement sur ce chemin-là, Dieu agrée ses enfants. Il n'y a pas d'autre prix. Il n'y a pas une autre possibilité de retourner à Dieu, de revenir à Dieu. La première décision de Dieu est vraie, est juste et elle est éternelle. Dieu ne peut pas mentir et il ne peut pas non plus reprendre ce qu'il a dit. Vous voyez, autrefois, c'était la seule et unique possibilité de la part de Dieu et la possibilité de revenir, de recevoir la communion avec l'homme. C'était seulement par le sang de l'animal qui avait été immolé, par le sang qui a coulé. Et si maintenant, ici nous mourons, terrestrement, cela ne veut pas dire que nous sommes morts. Mais Jésus-Christ a dit, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra plus, ne mourra pas. Cette mort de laquelle il est parlé ici signifie être séparé de Dieu. Vous voyez, ici c'est une mort physique. Mais quelque part nous vivons, nous continuons à vivre, nous faisons que quitter cet endroit et allons dans une autre dimension. Mais ce n'est pas la mort comme certains le pensent, que et plus rien n'existe et on ne continue plus à vivre. Vous savez, alors que la fille de Jaïros était morte, Jésus a dit, elle n'est pas morte, elle dort seulement. Mais Jésus, lui, il savait qu'elle était morte, mais il a dit, elle dort seulement, elle ne meurt pas. Et je vais aller pour la ressusciter. Et elle est revenue à la vie. Bon, d'Adam jusqu'à maintenant, les hommes ont essayé de créer leur propre substitut. Ils ont fait de leur mieux. Ils veulent savoir mieux les choses et faire les choses mieux que Dieu. Cela est dans l'homme. L'homme essaye toujours de se secourir lui-même et de chercher un chemin pour son salut. Et faire quelque chose de lui-même pour son salut. Il veut comme ça infiltrer leur propre pensée dans les pensées de Dieu. Et c'est pour cette raison que nous sommes divisés aujourd'hui. Le christianisme, le peuple chrétien dans le monde est séparé par des barrières et divisé. Toutes sortes de différentes. Pourquoi? De différentes. Pourquoi? Parce que les hommes ont mis leurs propres idées dans le plan de Dieu. Vous voyez? Mais Dieu a lui un plan. Et déjà, depuis le commencement, dans le jardin d'Éden, les pensées des hommes ont été exprimées. Adam lui-même et avec sa femme se sont fait des feuilles de figuier. Et se sont couverts avec des feuilles de figuier. Ils ont essayé tout pour s'aider, pour se secourir eux-mêmes. Durant toute la civilisation, l'homme a toujours essayé de faire quelque chose de lui-même. Mais jamais Dieu va agréer l'œuvre de l'homme. Dieu a créé l'homme seulement sur le fondement du sang versé sur la croix à Golgotha. L'instruction a manqué. Plus on est instruit, on s'instruit et plus on s'éloigne de Dieu et des uns des autres. Nous avons essayé chacun de sa manière, mais rien n'a réussi. La communion a été interrompue. Bon, c'est seulement la confusion qui est restée et tout ce qui encore resterait. Mais le plan de Dieu demeure le même. C'est seulement sous le sang verset que Dieu nous rencontre. Ce sang-là doit être appliqué. Déjà autrefois du temps d'Israël, alors qu'il devait immoler un agneau et comme ça mettre, appliquer le sang sur les linteaux des portes. Vous voyez, Dieu l'avait exigé que ce signe soit appliqué, soit employé et soit mis sur les portes. Ça n'avait pas d'importance ce que les gens pensaient. Ici, c'était l'instruction, c'était l'ordre, l'exigence de Dieu. Que ce soit qu'ils étaient israélites, qu'ils étaient circoncis, qu'ils croyaient en Jéhovah, tout cela n'a pas pu, comme ça, remplacer l'exigence de Dieu. Car ici était l'ordre divin. Le sang devait être appliqué sur les linteaux des portes. C'est pour cette raison que je crois aujourd'hui que chaque chrétien doit expérimenter la puissance du sang de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 13, verset 20 et 21. Dans la traduction d'Arabie en français, pour être délivré entièrement. Ça n'a pas d'importance ce qu'il aurait encore d'autres. Il faut que cela soit présent comme autrefois en Israël. Et il s'agit ici de la vie qui est dans le sang. Elle doit devenir visible. Dieu veut la voir en nous. Ça n'a pas d'importance comment est-ce que le peuple était religieux. Et la maison et le peuple étaient religieux. Et comment est-ce qu'ils avaient instruit et éduqué leurs enfants? Et comment est-ce qu'ils prenaient part à toutes les réunions et chantaient les cantiques et toutes les choses qu'ils ont faites que Dieu exigeait? Mais dans les dernières heures où il s'agissait de la mort ou de la vie, il fallait que le sang soit appliqué sur les linteaux des portes. Et le sang montrait que un sacrifice innocent à la place de l'homme a laissé sa vie et que le sang a été comme preuve de la vie qui a été laissée, appliquée de manière visible sur les portes, que cette maison-là est protégée, est sûre sous le sang versé. Ça, c'était un type, un symbole. Vous voyez, ici, dans ces derniers jours, nous arrivons dans les heures où Dieu délivre son peuple. Ça, je le crois. Et aussi certain que le sang, là-bas, en tant qu'en mémoire, avait été appliqué sur les lintes des portes. C'est ainsi que le signe, aujourd'hui, doit être présent et est nécessaire, est obligatoire. Vous voyez, il ne pouvait pas, comme ça, quelque part comme ça, appliquer le sang du Seigneur Jésus. Non. Non, les premiers chrétiens. Non. Autrefois, dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'un animal, d'un agneau qui avait été appliqué sur les lintes des portes. Mais la vie qui était dans cet agneau ne pouvait pas revenir sur l'homme, car l'animal n'a pas d'âme. C'est peut-être la raison que la vie ne peut pas revenir sur celui qui était venu pour adorer. Mais maintenant, alors que le sang de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, à Golgotha, a été versé, et que par le sang nous avons été rachetés, et la vie c'est Dieu, donc lui-même qui revient par le Saint-Esprit sur le croyant, dans le croyant, pour établir sa demeure dans la fin des temps. Et si quand Dieu verra cela, si Dieu voit cela, sa propre vie qui en toi par son esprit, alors il passera sans détruire. Vous devez accepter la mort de Jésus-Christ qui a eu lieu à votre place. Et le Saint-Esprit lui-même rend témoignage. Vous direz peut-être que j'ai accepté ce sacrifice pour moi. Et vous vivez encore dans le monde. Et vous vous comportez comme le monde. Et vous faites ce que le monde fait. Alors vous n'avez pas de preuve que cela s'est accompli avec vous. Il faut une preuve du pardon. Et la preuve du Saint-Esprit, de la vie du Saint-Esprit, doit être en vous, dans votre vie. Ça, c'est une obligation pour chaque homme, pour chaque femme, dans ces derniers jours. En tant qu'un signe. Je dis que ça dit. En vérité, je vous le dis. Si ce n'est que quelqu'un naisse d'eau et d'esprit, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous voyez? C'est le programme de Dieu, son sang. Le sang était dans l'Ancien Testament, le sang est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le sang d'animaux est un symbole du sang de l'agneau qui aurait coulé. Mais l'adorateur repartait avec les mêmes sensations de faute avec lesquelles il était venu. Mais maintenant, l'adorateur est purifié de la nature du péché et est délivré de cette nature du péché. Il n'a plus de désir de pécher et de faire le péché. Il est passé de la mort à la vie et il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il est en Christ et il a reçu la vie éternelle. L'Esprit de Dieu se repose en lui, vit en lui. Et la vie de Jésus-Christ est manifestée par lui. Et la Bible dit Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu attend l'heure où l'Église revient dans cette position, dans cet état spirituel. Ça n'a pas d'importance. Qui est-ce que vous soyez, à quelle assemblée vous appartenez, vous et à quoi est-ce que vous appartenez. Ce signe de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection doit être visible dans votre marche, visiblement dans votre vie. Il a dit un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai avec vous. Je serai en vous. Je me manifesterai à vous. Je me révélerai à vous. Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'âme. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et le même éternellement. Je serai en vous. Parfois je viens des chrétiens. Ils disent nous sommes chrétiens. Et ils pensent même être sanctifiés. Ils ont même honte de dire amen. Ils ont honte de chanter les cantiques spirituels de Sion. les psaumes. Je veux me tenir parmi des hommes qui n'ont pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Non, il y a quelque chose qui s'est passé avec eux. Cela signifie pour eux plus que cette vie. C'est la vie éternelle. Car ils ont reçu ce que Dieu a donné à leur place. Et ils ont accepté, ils ont reçu ce que Dieu a donné à leur place. J'ai prié pour quelqu'un avant la réunion. Et il y en a qui ont prié et il a été chanté. Et après, j'entendais qu'ils ont frappé dans les mains et tout ça. Et j'ai vu même quelques-uns qui ont sauté d'ici et là. Et ils se sont un peu remués comme dans un rythme. J'étais un peu critique au commencement déjà, alors que j'avais vu cela dans les assemblées pentecôtistes il n'y a pas longtemps, eux il y a longtemps. Je disais, mais c'est quand même c'est insensé. Mais après j'ai lu la Bible et j'ai remarqué aussi que quand il était dansé dans l'esprit, il y a quelque chose qui s'est passé. Le diable a imité cela avec le rock and roll et le disco et tout cela et le rythme. Et il a imité tout cela. Mais toujours quand Dieu accordait une victoire à son peuple, le peuple de Dieu a dansé. Autrefois, alors que la victoire sur Goliath avait été accordée au peuple de Dieu, alors les Israélites ont rentré David et ils ont loué la victoire. Alors que le peuple d'Israël était passé par la mer Rouge et qu'ils étaient de l'autre côté du bord, Myriam a pris la cymbale et a commencé à danser et à chanter. Et tous les autres ont suivi et ont dansé en esprit. Ça, c'était une vraie assemblée, une vraie réunion de Pentecôte. Sinon, je n'ai pas encore vu une vraie réunion de Pentecôte. Mais l'erreur chez moi était que je n'avais pas assez de victoire. Si vous avez la victoire de Dieu et la preuve de Jésus-Christ qui a été manifestée pour vous et en vous, alors vous pourrez chanter. Comme ce psaume, dans la Bible. Alors que le psalmiste, autrefois, vous savez, David, alors qu'il avait pris la fille de Saül pour femme, elle était un peu orgueilleuse et fière et elle pensait que toute chose doit se dérouler de manière correcte, etc. Et elle n'avait pas reconnu que la colonne de feu était avec le peuple d'Israël et que Dieu avait accordé à David la victoire et qu'il avait assez de raisons pour louer et exalter le Seigneur. Et ensuite, David est revenu avec l'arche de l'alliance du Seigneur. Et devant l'arche de l'alliance, David a dansé. Et il a chanté et la louange à Dieu. Et la fille de Saül était un peu touchée. Et elle a dit même, le roi se comporte de manière indigne et pas correcte. Et David a dit, si tu n'aimes pas cela, alors regarde, je le fais encore plus. Car je donne ainsi la gloire à Dieu. Et il a commencé encore plus fort de danser, de se réjouir en esprit et de remercier le Seigneur. Les autres n'étaient pas d'accord avec cela. Mais c'est vrai qu'ils se tenaient sous la malédiction. C'est à cause de ça qu'ils n'étaient pas d'accord avec cela. Moi, je vous dis, si la vie de Jésus-Christ est manifesté dans l'église et il n'y a seulement un point de rencontre, de communion, c'est sous le sang. Par les dénominations, nous avons été divisés, par les groupes, mais aussi parmi les pentecôtistes et parmi les croyants. Mais la Pentecôte originale est notre modèle. Personne ne peut le dire autrement que l'église, le jour de la Pentecôte, a commencé. Et dans Actes chapitre 2 et dans toute la Bible, quand le Saint-Esprit venait sur des hommes et établissait sa demeure en eux, dans la Bible, il y a quelque chose qui s'est passé. Je voudrais dire la chose suivante. J'étais dans les pays des nations, les païens, et j'ai vu là-bas que des nègres parmi les huttes se tenaient là et je parlais par des traducteurs. Beaucoup n'avaient jamais même entendu le nom de Jésus-Christ. Et ensuite, je leur ai apporté la parole de Dieu. Et je vous dis, alors que je priais pour eux et qu'ils ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, la même chose a eu lieu avec eux que nous lisons dans la Bible, dans Actes des Apôtres, sous la puissance du Dieu Tout-Puissant, comme avec vous aussi, que vous soyez noir, rouge, blanc, jaune, ça n'a pas d'importance. La même chose a lieu partout où l'Esprit de Dieu se répand. Vous voyez, Nous savons qu'il y avait eu Nebuchadnezzar et d'autres qui se tenaient de l'autre côté. Mais il y avait ceux qui se tenaient sous le sang, qui avaient pris la bonne décision et savaient qu'il y a quelque chose d'innocent qui a pris leur place pour eux en tant que coupables. C'est encore aujourd'hui la même chose. Regardez Job et d'autres. Job est le livre le plus ancien de la Bible. Le plus vieux, le plus âgé de la Bible. Alors qu'il y avait beaucoup qui étaient dans son âge, mais il se tenait là seul. Il savait qu'il avait fait ce que Jéhovah exigeait de lui. Abraham a fait la même chose. Beaucoup ont fait la même chose. Israël aussi. Vous voyez, ils savaient qu'ils avaient fait ce que Jéhovah attendait d'eux et avait exigé d'eux. Et mes bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. La communion est seulement possible sous le sang versé. Vous voyez, les hommes voulaient aller autrefois adorer à Jérusalem, mais le sacrifice avait été apporté. Il s'agissait toujours du sang qui avait été coulé, qui a coulé. Du sang qui a coulé. Aujourd'hui, nous avons tellement d'instructions dans cette nation et partout. Ils sont tous cultivés au haut niveau. C'est comme ça que cela semble. Nous avons toutes ces choses de la science. Et ce développement scientifique, ils peuvent envoyer des choses sur la Lune. Ils n'ont même plus besoin d'y aller. Ils ont seulement besoin d'envoyer des choses dans la Lune. Et des robots et tout cela. Tout ce qu'ils font, ils calculent les choses. Tous les programmes de culture et d'instruction. Mais tout cela nous ont fait que nous allons nous éloigner encore plus de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous consacrer entièrement, de nous mettre à la disposition de Dieu pour que la puissance du Dieu Tout-Puissant puisse descendre parmi le peuple de Dieu et que notre volonté soit réellement soumise à sa volonté dans la pratique et qu'il puisse se manifester. C'est ainsi que sera accompli. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Christ a dit, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute la création. Et celui qui croit et qui se laisse baptiser, cela sera sauvé. Et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, c'est une révélation, c'est une manifestation du Saint-Esprit que Dieu ici a agréé l'adorateur. Parce que la vie de son esprit est manifestée par le croyant. Parce que la même vie par l'Esprit de Dieu est manifestée. La même vie de Jésus-Christ est en toi. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Qui est revenu en esprit, établi sa demeure dans ton cœur. C'est ainsi que, comme ceux qui apportaient les sacrifices le jour de la réconciliation, ils ont dû le faire. Et ils pouvaient dire, ici est le sacrifice que Dieu a exigé. Et peut-être que l'un c'était un agneau, que quelqu'un avait pris, que le sacrificateur devait sacrifier et immoler, et il allait à l'endroit de l'adoration. Il savait que je suis un pécheur. Et maintenant, il met sa main sur le sacrifice qui va mourir à sa place, qui va perdre sa vie à sa place. C'est ainsi qu'il s'identifie avec son sacrifice. Et ensuite, quand la gorge avait été, quand le sacrifice était égorgé et que le sang sortait, il ressentait encore les douleurs de l'animal. Il comprenait que les douleurs, là, c'est lui qui aurait dû les porter. Le sang coule et il reconnaît par cela que cet animal-là porte et prend sa place. Et ensuite, il repart justifié parce qu'il a fait ce que Jéhovah avait exigé de lui. C'est ainsi que cela était avec nous aujourd'hui. Et avec nous aujourd'hui, ce n'est pas comme ça une signature, ou bien alors de dire, oui, je viens à l'école du dimanche, je viens à la réunion. Ce n'est pas de promettre des choses, de soumettre, de donner tant d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Non, il s'agit de mettre sa main sur le sacrifice de Dieu, pour que vous puissiez recevoir votre pardon et que vous soyez identifié avec votre sacrifice et de comprendre que Jésus-Christ, dans sa chair, a porté vos fautes et vos péchés sur le bois. Il est votre sacrifice. Il est mort et il est ressuscité. Vous êtes mort avec lui et enseveli avec lui par le baptême, crucifié avec lui, et vous êtes ressuscité avec lui pour marcher désormais en nouveauté de vie. Si, avec un cœur sincère, vous l'avez expérimenté cela, et vous avez fait ce que Jéhovah exigeait. Vous voyez, les Juifs auraient pu être justifiés parce qu'ils avaient fait ce que Jéhovah avait exigé. Cela, il avait exigé. Mais ensuite, cela est devenu une tradition familière. Ils ne faisaient plus de tout leur cœur. Le jour de la réconciliation arrivait et les Juifs avaient déjà fait ce qui était juste selon l'extérieur. Mais leur cœur n'était plus dans la chose. C'est devenu une tradition. La sincérité, la consécration n'était plus là. C'est vrai qu'ils allaient encore au temple le jour de la réconciliation. En tant que toute famille, en tant que toute la famille. Et ils pensaient que chacun le fait, nous devons aussi le faire. C'est là aussi qu'est arrivée notre chrétienté aujourd'hui. C'est là que les mouvements pentecôtistes sont arrivés encore aujourd'hui. C'est devenu une tradition. Vous voyez? Nous ne nous identifions plus à notre sacrifice. Comme c'est écrit dans Romains 6, nous devons devenir une seule plante avec lui dans sa mort. De combattre quand nous sommes morts avec lui, avec notre sacrifice. Nous disons oui, nous sommes chrétiens. Parce que nous appartenons à une assemblée, ça ne signifie rien du tout. Je vous dis, vous devez vous identifier à votre sacrifice. Il est écrit dans 1 Corinthiens 5, qui est notre sacrifice? Notre Pâque a été immolé, Christ. Et vous devez avoir mis votre main sur votre sacrifice, sur le sacrifice. Et l'Esprit du Christ est en vous alors, et vous êtes en lui, jusqu'à ce que vous soyez devenus des fils et des filles de Dieu. Mais où est la sincérité aujourd'hui? Et la consécration aujourd'hui? C'est devenu un rituel. C'est devenu seulement une forme extérieure, comme c'était autrefois. Que des hommes pensent qu'ils sont chrétiens. Vous voyez? Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une jeune femme dans la lignée des prières, et je lui ai demandé, es-tu chrétienne? Elle a dit, je veux te laisser savoir que je suis une Américaine. Est-ce que cela a quelque chose à faire avec la chrétienté, avec le fait d'être chrétien? C'est bien d'être Américain, mais vous devez naître de nouveau, naître d'en haut, pour être chrétien. Il y a une autre femme qui me demandait, à qui j'ai demandé, es-tu chrétienne? Et elle était tellement étonnée de ma question. Elle a dit, mais je veux te laisser savoir que tous les soirs, j'allume une bougie. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la vie d'un chrétien? Mais si Christ et sa vie est en vous, alors vous êtes seulement de cette manière identifié avec lui, votre sacrifice. Christ en vous. Ce n'est pas comme ça d'appartenir à une église, à une assemblée, mais la chose vraie, la chose véritable.
Et ensuite, quand nous arrivons à la lignée de prière, quand vous voyez dans la lignée de prière, sous le discernement des pensées, combien de fois j'ai dit aux hommes, répentez-vous, vous voyez? Où sont nos prières aujourd'hui? C'est devenu la tradition. Nous nous mettons à genoux, le soir nous disons, Seigneur, bénis celui-ci, aide mon frère, aide ma soeur à faire ceci, à faire ça. Alors vous utilisez Dieu comme un boy, vous l'envoyez ici et là, et vous lui dites ce qu'il doit faire. Vous lui montrez seulement ce qu'il doit faire. Et vous lui donnez des ordres, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, Dieu que tu puisses bénir. Ce n'est pas comme Jésus nous a appris à prier. Il a dit, quand vous priez, dites que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais nous pensons devoir dire à Dieu ce qu'il doit faire. C'est pour cette raison que l'Église a refroidi et que les grands réveils qui étaient venus sur le pays, par lesquels des millions se sont ajoutés à l'Église, ont disparu. Maintenant, c'est toutes sortes de soi-disant chrétiens et de soi-disant expériences comme tradition au lieu que une repentance vraiment divine, véritable par l'Esprit de Dieu vienne sur eux, qu'ils soient vraiment convaincus du péché par l'Esprit de Dieu, pas par un autre, et que vraiment par cela quelque chose de nouveau soit créé en eux, une nouvelle vie, une humilité d'une manière que vous ne pouvez pas vous reposer jusqu'à ce que Dieu s'est manifesté, parce que la vraie humilité c'est que la volonté de Dieu soit faite, pas d'appartenir à une confession, mais la vie de Jésus-Christ en vous. C'est elle qui vous pousse à aller là où Dieu parle, là où Dieu bénit. Hier, j'ai parlé avec un jeune homme et j'ai été, par cet entretien, cela m'a rappelé alors que je travaillais encore en Indiana. Là-bas, il y a beaucoup de sources, des sources naturelles. Et particulièrement l'une que j'aimais beaucoup, l'eau jaillissait vraiment d'une manière particulière, d'une manière merveilleuse. Et je me suis arrêté comme Moïse s'est arrêté devant le buisson ardent. Et j'avais dit, toi source, qu'est-ce qui te rend si joyeuse que tu jaillis comme ça, plein d'amour et de joie. Que ce soit en hiver, que ce soit en été, que ce soit au printemps, que ce soit en automne. À savoir que je passe ici, tu jaillis comme ça. Es-tu si heureuse de ce que les animaux boivent ton eau, et les lapins et les biches, et tous les animaux viennent et passent, et si la source pouvait parler, elle dirait non, ce n'est pas à cause de ça. Alors je demanderais, mais est-ce que tu es heureuse parce que je bois de ton eau? Non, elle dirait, la source dirait non. Vous pouvez tous boire, mais alors je dirais, mais pourquoi est-ce que tu es si heureuse? Pourquoi tu jaillis comme ça de manière si heureuse? Hein? Tu, vraiment, ça me donne envie d'être comme toi. Si la source pouvait parler, elle dirait, ce n'est pas moi. Mais derrière moi, il y a quelque chose qui me pousse à jaillir. Et il y a une puissance en moi qui me fait sortir de cette manière pour rafraîchir mon entourage. C'est comme ça comme Jésus-Christ disait, l'eau que je vous donnerai deviendra en vous une source qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. C'est quelque chose dans l'adorateur qui s'est passé. Ça jaillit en lui. La vie est revenue. La vie de Dieu est revenue sur lui, est en lui. Et c'est dans Jean 4 qu'il est parlé aussi d'un côté de la source et aussi de l'adoration. Mais aujourd'hui, tout est devenu une tradition. Le peuple d'Israël avait, selon l'extérieur, seulement observé la parole, les ordres, les ordonnances et les commandements. Mais le prophète Esaïe, il avait été envoyé à Dieu, à eux, avec le « Ainsi dit le Seigneur ». Et vous pouvez le lire. Dieu a toujours pu mettre sa main sur quelqu'un qui n'avait pas peur de prononcer les choses qu'il doit prononcer de la part de Dieu au peuple de Dieu. Si vous voulez, par exemple, lire d'Ésaïe, lisez, commencez avec le premier chapitre. Et Dieu lui a laissé dire que leur sacrifice n'était pas agréable à Dieu et que c'était une mauvaise odeur à ses narines, quoique ses sacrifices étaient apportés selon la loi. Tous les sacrifices qu'ils ont apportés, quoique ça avait été ordonné par Dieu de le faire, mais parce qu'ils en ont fait une tradition et ils ne le faisaient plus de tout leur cœur, ils n'étaient pas avec tout leur cœur dans ce qu'ils faisaient. Et c'est pour cette raison que c'est ainsi que nous avons fait la même chose avec la parole de Dieu. Nous en avons fait une tradition. C'est devenu un rituel. Alors que dans Romains 6 au verset 17, il est fait mention ici du cœur. Nous devons venir et savoir que c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu a parlé et il se tient sur sa parole. Il est plus grand que ses promesses. Et il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Il est plus que capable de confirmer sa parole. Et Esaïe a dû leur dire toute la vérité. Ils l'ont fait sans sincérité. Ils le faisaient seulement parce que d'autres le faisaient. Et parce que Jéhovah l'avait ordonné. Et les mères le faisaient et les grands-mères l'avaient déjà fait. Et aujourd'hui, nous faisons la même chose. On dit aujourd'hui, mon père était déjà, mon grand-père était déjà presbytérien. Ou bien mon père était baptiste, je suis baptiste. Etc. Mon père était pentecôtiste, je suis pentecôtiste. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous devons arriver à ce point où nous devons reconnaître que nous sommes séparés de Dieu, éloignés de Dieu, et que nous devons venir sur le fondement du sang versé de Jésus-Christ et ainsi recevoir la relation avec Dieu et les uns avec les autres, que ce soit méthodiste, baptiste, luthérien, qui que vous soyez, tous ces différents groupes, nous devons aujourd'hui maintenant nous rencontrer tous sous le couvert du sang de Jésus-Christ et nous devons rencontrer ainsi le Seigneur. ici est le seul fondement commun que nous avons. Car dans Jude, il est dit que nous avons un salut commun. Et que nous devons combattre pour cette foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. C'est ainsi que Jésus-Christ ne reviendra pas jusqu'à ce que l'Église sorte de toutes les traditions et les doctrines. Et qu'elle naisse réellement d'en haut. Dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas ici de devenir membre de quoi que ce soit. Mais de recevoir la communion personnelle avec Dieu. Pour que la communion les uns avec les autres aussi soit de tout son cœur et soit fraternelle. Et l'Esprit de Dieu viendra sur la terre comme les vagues de la mer couvrent la mer. Si les hommes pouvaient oublier leurs différends, si les croyants pouvaient oublier leurs différends et revenir en communion les uns avec les autres, sur le fondement du sang versé pour chacun. Vous ne pouvez pas vous rencontrer sur la tradition baptiste, sur la tradition méthodiste ou bien pentecôtiste. Non, mais tous, nous pouvons nous rencontrer et avoir communion ensemble par le sang de Jésus-Christ, de l'agneau de Dieu. Ça, c'est le plan original de Dieu. C'est là que le pardon, c'est là que la paix est véritable. Pas baptiste, méthodiste, ceci appartenait à ce groupe, appartenait à ce groupe. Et tout à ce sens des traditions. Mais là-bas sur la croix, là où le sang de Jésus-Christ a coulé, c'est là-bas où Jésus-Christ est mort. C'est là que nous devons aller et être mort avec lui et créer de nouveau en lui pour devenir une nouvelle création. Alors, nous sommes des frères parce que Jésus est notre frère. Et c'est ainsi que ça, c'est le chemin de Dieu pour nous. Tout le reste, ce sont des doctrines humaines, ce sont les œuvres humaines. Non, nous devons revenir au plan original de Dieu par le sang versé du pardon. Car le pardon de Jésus-Christ est dans le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Dieu de le faire. C'est ce que Dieu veut faire. Mais leur tradition, leur groupe, les ont séparés, les ont divisés. C'est les différents groupes qui ont été un obstacle à la communion les uns avec les autres. Et ils ont ainsi ôté l'autorité et la valeur de la parole de Dieu. Et du plan de Dieu. Ils n'avaient pas la foi véritable. Et c'est vrai qu'ils ont apporté leur sacrifice, mais plus avec la foi. Avec la consécration, avec le cœur, avec l'âme. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus, c'est pas la même chose? Nous ne voulons pas le dire, mais nous devons nous représenter la réalité en face. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Église devrait être à des milliers de kilomètres plus loin. Jésus-Christ attend l'Église qu'elle soit préparée. Son épouse s'est préparée. Nous avons reçu toute l'armure de Dieu et tout le matériel pour l'édifice. Le Saint-Esprit est ici. La puissance de Dieu est ici. Dieu est ici. Sa parole est ici pour guérir les malades. Et pour que toute chose qui soit possible, que Jésus-Christ a fait, se répète. Et j'ai vu la même chose se répéter par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Dieu attend que l'Église sorte de toutes ses doctrines et ses opinions humaines et ses traditions. Et que Jésus-Christ ainsi puisse se manifester. Parce que les croyants sont devenus un seul cœur et une seule âme et ils ont oublié leurs différends. Ça, c'est l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas ici méthodiste, baptiste ou bien quoi que ce soit. Quoi que vous soyez, nous voulons tous venir. Et librement prendre de l'eau de la vie. Je le crois avec tout ce qui est en moi. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour que cela puisse se passer. Mais nous avons encore nos rituels, nos doctrines, nos opinions et nos traditions. Ce n'est plus avec tout le cœur et la sincérité. Hein, nous pensons oui, c'est notre tradition. Et ce sont les traditions qui ont annulé la parole de Dieu, les doctrines, les opinions humaines qui ont annulé la parole de Dieu. Et nous faisons ce que Dieu a dit. Mais pas comme il le dit, c'est-à-dire de tout notre cœur. J'ai écouté dans une des Californies, en Californie, dans une assemblée où il y a un frère qui avait parlé, beaucoup d'hommes étaient venus, particulièrement aussi des jeunes. J'ai estimé le frère pour la position qu'il avait prise, de ce qui s'était passé là-bas. Sûrement que ça, on doit estimer cela. Mais alors que les hommes étaient venus à l'hôtel, après qu'il ait appelé à l'hôtel à venir, après la réunion, les gens sont venus devant, après la prédication, ils étaient en train de manger du chewing-gum, les autres ont ri, les autres se moquaient, les autres étaient comme ça. Je dis, mais est-ce que ça, c'est la manière avec laquelle on doit suivre l'appel à l'autel? avec le chewing-gum dans la bouche, et la légère comme sans sourire. Vous devez venir ayant été saisi par le Saint-Esprit et avoir été convaincu du péché. Nous avons besoin d'une réunion du Saint-Esprit selon le modèle de la Pentecôte, une confession des péchés et de la vie dans les péchés, d'une conviction poussée par le Saint-Esprit à la repentance. Pas comme ça de donner des promesses au Seigneur, mais une expérience que nous faisons avec lui sous l'écoute de sa parole. Vous venez pas un peu, vous dites, Seigneur, je veux maintenant être meilleur, je veux ceci, ceci. Non, venez sous le sang de Jésus-Christ, sous la réconciliation. Et cela doit être sincère, la sincérité doit être là. Dieu l'exige. Dieu exige une telle sincérité. Si, car il a donné son fils engendré de lui là-bas, comment est-ce que nous pourrons comme ça échapper? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, comment est-ce que nous pourrons échapper? Et nous allons venir avec sans le cœur et dire oui, je suis membre de ceci, je suis membre de cette église, je suis même. Non, ça ce n'est pas l'existence de Dieu. Ceux qui sèment avec larmes vont récolter avec joie. Et ils vont récolter. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Des hommes qui récoltent sous des larmes, qui sèment sous des larmes, qui récoltent avec joie. Oui, j'ai déjà parlé des réunions que nous avions eues avec Billy Graham. Et il disait, ici est la règle à suivre et l'absolu. Il dit, quand je vais dans une ville, il parlait de la parole de Dieu. Quand je vais dans une ville, il y a 30 000 personnes qui se convertissent. Et après plusieurs années, quand je repars, j'en trouve même pas 20 ou bien 30 qui sont restés de ces 30 000. Mais quand Paul allait dans une ville et qu'un se convertissait, après, cet unique-là qui s'est converti, 30 ou bien 40 sont devenus croyants. Par le témoignage de cet unique. Et frère Graham disait, c'est la faute des faux prédicateurs. J'ai estimé son courage de pouvoir reprocher cela à ses collègues, les prédicateurs. Mais je voulais lui poser la question. Écoute, quel prédicateur était là à qui Paul aurait pu laisser le converti pour s'occuper de lui? Paul l'a fait sortir, l'a prêché la parole de Dieu jusqu'à qu'il sorte du monde. Et il est resté dans la ville jusqu'à ce qu'il soit rempli de cet esprit. Et que le feu de Dieu soit dans son âme. Et c'est ainsi que partout où il allait, il a prêché. Car le feu de Dieu brûlait dans son cœur. Aujourd'hui, nous avons besoin de la même puissance du Saint-Esprit. Pour que des hommes et des femmes partent, sortent. Et que des âmes soient sauvées.
Cela me rappelle l'histoire alors qu'un jeune homme était allé à un homme qui avait un bar. Et il est entré dans ce bar et il a dit, mais écoute, ton écriture là devant n'est pas bon. Hein. Regarde, il est tombé et il est dépassé. Et l'homme est sorti, il a enlevé son tablier. Il a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu me racontes, c'est pas vrai, tu t'es trompé. Mon écriture est encore là. Et le jeune homme lui dit, non, tu n'as pas mis le bon écriture. Regarde ici. Regarde là-bas dans la rue, cet homme sous. Il est seulement entré ici parce que toi tu as mis ce signe. Et maintenant il est là-bas. Regarde dans quel état et sous quelle influence il est. Hein? Tu as vu ce que tu as fait? Mais si nous voyons des hommes qui sont sous l'influence du Saint-Esprit, qui ont reçu la puissance de la Pentecôte, alors des signes et des miracles se passent. Et alors les hommes sont sauvés. S'ils sont baptisés dans le corps de Jésus-Christ. Pas comme ça, pas seulement en étant membre d'une assemblée. Mais où est la sincérité? Où est de vraiment d'être soucieux pour les pécheurs, pour l'état de la ville dans laquelle on vit? Hein? À qui est-ce que qui est encore soucieux? Et qui encore afflige son âme pour les hommes perdus? C'est vrai qu'ils prient, mais ils sont sans puissance. Ils apportent leurs offrandes, leurs dîmes, etc. Ils font tout selon l'extérieur. Tout est en ordre selon l'extérieur. Hein? Selon la parole. Mais vous savez que la Bible dit ce qui va se passer de la fin des temps. Dans Timothée, il est écrit. C'est écrit que les gens seront orgueilleux, fanfarons, aimeront le plaisir plus que Dieu. Et ils vont rejeter ceux qui sont bons. Ils ont une forme de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force, la puissance. Éloignez-vous de telles personnes. Car c'est justement l'épée qui transperce et qui sépare. Mais tel qu'il est écrit. Et ils entrent dans les maisons pour rendre captives des femmes. Vous voyez? Mais si la Bible dit que l'Église entre dans le même état comme cela était dans l'Ancien Testament, dans la tradition et dans l'apparence extérieure, nous voyons encore une religion en tant que tradition. Oh, vous vous dites, cela concerne le communisme. Non, 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 non. Ils ont une forme de la piété. Ils vont à l'église. Ils appartiennent à une institution. Et ils font tout. Mais ils écoutent la parole, mais ils ne la vivent pas. Ils ne vivent pas. Ils ne sont pas comme ce qu'ils ont écouté. En eux, il n'y a pas de feu dans leur âme. Ils ne sont pas intéressés à quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas soucieux des pécheurs et de ceux qui sont perdus. Ils pensent, nous sommes sauvés, ça suffit. Alléluia. Ce n'est pas le vrai christianisme, ça. Le vrai christianisme va vers ceux qui sont perdus. Va et cherche les perdus et fait quelque chose. Mais nous asseyons là et nous faisons qu'écouter des prédications et nous croisons nos bras, hein, et nous disons nous sommes sauvés. Et il y a des hommes et des femmes qui sont autour de nous qui sont perdus et nous ne faisons rien. Au moins ne serait-ce que notre vie puisse rendre un témoignage du salut que nous pensons avoir reçu. Nous regardons les assemblées, hein, avec des cheveux bizarres et maquillés. Et des cheveux coupés et des habits qui ne sont pas dignes de Dieu et de sa parole. Et les hommes qui fument et tout le visage maquillé. Et ils ressemblent à toutes choses, mais pas à une chrétienne. Et ils appartiennent justement à ces différentes assemblées. Et vous les appelez des chrétiens. Qu'est-ce que Paul ferait s'il était là? Et qui pourrait comme ça conserver la paix. Déjà le matin tôt, on aurait dû le mettre en prison parce que son âme aurait brûlé pour l'état misérable de la ville. Il irait dans la ville, dans la rue, et il devra dire à tous les hommes de revenir à Dieu. Je vous dis que nos traditions, nos doctrines puent aux yeux de Dieu. Il n'y a rien de vivant en eux. Où est la vie de Dieu réellement? Où est le ainsi dit le Seigneur? Où est-ce que Dieu peut réellement se manifester? D'une manière que quelque chose se passe pour l'honneur de son nom. Regardez les dénominations. Ils ont grandi. Ils font que ça croît. Hein, elles sont plus belles qu'elles étaient auparavant. Mais elles seraient mieux avec une simple guitare dans la rue, avec une réunion à l'ancienne mode, avec le feu de la Pentecôte dans leur âme et qui brûle dans leur cœur. Qu'avec tous ces sièges agréables dans les assemblées et le rythme et les batteries et toutes ces choses, ces quatre guitares électriques, Dieu a un pardon et ce pardon est en Jésus-Christ, l'institution. Et toutes ces choses n'ont rien à voir à faire avec cela. Sous le sang de l'agneau de Dieu, c'est le pardon qui est contenu et la réconciliation et la communion. Ça, c'est le chemin préparé pour le pécheur. C'est seulement là que Dieu nous rencontrera. Prenez les baptistes, les méthodistes et les premiers. Laissez-les tous venir sous le sang. Alors, ils sont tous des frères. Sous le sang, nous sommes tous des frères. Il n'y a plus de disputes. Il n'y a plus de querelles. Il n'y a plus de division. Mais si un méthodiste, si un baptiste se dispute sur le baptême, ou bien sûr, ou bien les unitaires, avec les trinitaires, alors je vous dis que les cheveux se dressent sur la terre. C'est comme ça qu'ils se disputent. Mais quand ils commencent à prier, alors tout va en ordre. Oui, oui, comme ce cantique l'a dit, Christ est la chose la plus précieuse et qu'elle demeure pour moi jusqu'à ce que je meure. Oui, jusqu'à ce que je sois mis dans la tombe et que je ne puisse plus parler ici. Oui, le sang de Jésus-Christ fait de méthodistes, de baptistes, de parmiséniens, de quoi que ce soit, nous fait devenir tous des frères. Le même esprit de Dieu est alors en nous et a créé toutes choses nouvelles. Nous ne sommes plus des gens qui cherchent des disputes, mais des frères. Et nous croyons chaque parole qui est écrite dans la Bible. Comment est-ce que le Saint-Esprit, qui a écrit lui-même la Bible, peut renier une parole de Dieu? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut habiter en nous et renier que la même puissance de l'Esprit est pour nous? Pierre a dit pour vous et pour vos enfants, cette promesse est à sa valeur aussi nombreux que Dieu en appellera. Et aujourd'hui, on dit quelque chose d'autre. Mais les Saintes Écritures disent que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Jésus-Christ a dit, tous ceux que le Père appelle viendront. Il ne s'agit pas ici seulement d'enthousiasme. On vient seulement parce qu'on a peur d'aller en enfer. Ou bien alors, est-ce qu'on vient parce que nous aimons Dieu et qu'il a donné son fils engendré de lui pour que nous ayons la vie éternelle par lui? Nous venons parce qu'il a apporté le sacrifice d'amour pour nous. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Une religion sans puissance. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Là, à chaque fois dans la Bible, que Dieu faisait quelque chose, que ce soit du temps de la réformation, que ce soit dans les réveils qu'on suivit, à chaque fois quelque chose de surnaturel s'était passé, des signes et des miracles s'étaient passés. Regardez ce qui s'est passé par Luther, par Wesley, par Siegfried, Knox, Finney et tous ces hommes de Dieu. Partout, la puissance de Dieu a été manifestée. Là où Dieu se manifeste, quelque chose se passe, quelque chose de surnaturel. Il faut que ce soit présent. Vous voyez, alors que les pharisiens, autrefois, étaient venus à Jésus-Christ, sûrement que extérieurement, les sacrificateurs étaient très agréables. C'était des, ils venaient dans votre maison quand l'enfant était né. Et quand quelque chose se passe, ils étaient toujours pleins d'amour et gentils et prêts à aider. Quand il y a des problèmes, quand il y avait des disputes avec le voisin, le sacrificateur venait faisait en sorte que la paix de nouveau soit rétablie. Et tous pouvaient dire, oh, nous savons qui est le sacrificateur, qui est son père, qui est sa mère. Mais qui est ce Jésus-là de Nazareth? De quel col il vient? De quelle organisation il vient? Qu'est-ce qu'il fait même en fait? Il fait qu'apporter de la division partout. Et les sacrificateurs ont dit, celui-là, ce Jésus-là, il vient du diable. Vous voyez? Qu'est-ce que c'était? Mais Jésus est allé dans le temple. Il les a regardés avec colère. Et les sacrifices que Jéhovah exigeait. Et il a renversé tout. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera une maison d'adoration, de prière. Nous avons besoin d'une purification dans nos assemblées modernes d'aujourd'hui. Que les tables soient renversées et que les chaises soient jetées par la fenêtre. Une telle purification, nous en avons besoin. C'est vrai. La même chose se passera. Jésus-Christ était toujours selon les Écritures. Il était la parole. Il n'avait pas besoin d'écrire. Il était déjà la parole vivante. Mais les hommes ne l'ont pas reconnu. Comment est-ce que les hommes d'aujourd'hui peuvent passer sans prendre part à ce que Dieu fait? Jésus-Christ a promis, celui qui croit, voici les signes qui l'accompagneront. Et le Saint-Esprit se répandra. Toute personne qui vient à Dieu et est appelée, qui veut renier la parole et dire que le Saint-Esprit est en lui, c'est pas possible. Le Saint-Esprit va alors dire à chaque parole de Dieu, amen. Il va confirmer la parole par un amen. Oh frère, nos systèmes d'instruction nous ont éloignés de Dieu. Et les dénominations aussi nous ont séparé les gens avec les autres de Christ. Mais les groupes, les différents groupes. Mais si nous continuons de cette manière, où est-ce que nous irons? La Bible dit que si vous vous mordez les uns les autres, faites attention de ne pas être engloutis les gens avec les autres. Hein? Tout cela, c'est seulement que des feuilles de figuier que nous nous sommes mises. Seulement le sang de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Et là, le sceau du Saint-Esprit. Une église remplie de la puissance, pas remplie de religion, mais remplie de la puissance, bien sûr. C'est de la puissance de Dieu qui sauve le pécheur. Pas la religion, c'est la puissance de Dieu, par les signes et les miracles qui se passent, tels que Jésus-Christ les a promis. Vous voyez, autrefois, les gens croyaient la parole de Dieu et ils ont atteint les choses et ils les ont expérimentées. Si vous voulez faire la même chose, alors les choses vont se passer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas besoin d'une religion sans puissance. Il veut que ce qu'il a promis se passe. Il veut prouver qu'il est vivant et qu'il est le même encore aujourd'hui. Notre espérance est dans la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que c'est vrai? Notre espérance de la vie est dans sa résurrection. Dans la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu veut dans son église agir. Jésus-Christ a dit, je serai avec vous, je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez. Jean 14, verset 12. Ce que j'ai fait, vous le ferez. Et encore de plus grande, car je vais auprès du Père. Bon, l'Église essaie de renier cela et de s'éloigner de cela. De recevoir vraiment plus de membres. De devenir un peu mieux connu. Je vais vous poser la question. Si Dieu, dans son Église, essaie de faire quelque chose, vous voyez, Dieu, lui, il fait ces choses par sa parole. Et les églises, eux, elles font tout ce qu'elles font par leur confession. Et par leur confession de foi. Nous devons sortir de notre doctrine Et nous devons revenir avec la, avec la parole. Et avec le sang et avec l'esprit. Pas de doctrine et pas de tradition et pas de confession de foi. Et s'il y a des cœurs sincères qui sont présents. Et que la main de Dieu peut descendre et agir. Et que nous puissions reconnaître et confesser notre fausseté et nos péchés. Alors la voix de Dieu va rendre témoignage. Mais les églises ne veulent pas. Elles veulent toujours agir et atteindre quelque chose par leur doctrine et par leur confession de foi. Mais Dieu, lui, il veut agir par la puissance du sang et de la parole et de son esprit. Vous devez rejeter tout le reste. Mais si vous rejetez le Saint-Esprit, alors vous suivrez les traditions et les doctrines. Et vous allez devoir les accepter. Vous devez avoir rejeté la vérité avant d'avoir pu accepter l'erreur. Vous devez sortir des promesses de Dieu avant de pouvoir aboutir dans l'erreur. Mais si vous savez que ceci est la parole, alors ne dites pas que c'était pour un autre temps. Non, c'est pour aujourd'hui. Christ est la parole. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu, et elle est devenue chair. Et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chaque promesse de la parole est vraie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Où est la foi par laquelle toutes ces choses peuvent être mises en action? Vous devez venir sous le sang, ça c'est certain. Et comme Ésaïe a dit à Israël, qu'ils se sont souillés et ils se sont rendus coupables, mais Dieu a parlé à lui, à eux, à son peuple Israël par un grand prophète. Et ensuite, il a envoyé Jean-Baptiste. Et il leur a montré l'agneau. Cela n'est pas seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. L'agneau de Dieu a été envoyé. Et cet agneau-là est pour tous ceux qui veulent venir à lui. Et alors, l'agneau sur la croix a été frappé et meurtri. Et son sang a coulé et son esprit est revenu. Bon. Alors que l'animal dans l'Ancien Testament mourait, l'esprit ne pouvait pas revenir. Son esprit ne pouvait pas revenir. Car à l'époque, c'était seulement pour Israël. Mais maintenant, l'agneau de Dieu a versé son sang pour toutes les nations. Et le Saint-Esprit revient sur l'adorateur. Ça, c'est ce que Dieu exige. Ça, c'est ce que Dieu exigeait autrefois et c'est ce qu'il exige aujourd'hui. C'est-à-dire si quelqu'un aujourd'hui ressent le fardeau de son péché, et que vous savez que vous avez mal agi, écoutez, il y a le pardon par l'agneau de Dieu, par son sang versé. Croyez-vous cela? Par le sang de l'agneau de Dieu. Il y a une histoire qui m'a été racontée, qui m'a aidé. Il s'agissait de ce qu'un homme, un jeune homme avait été capnippé, et je ne sais pas exactement dans quel livre c'était, de toute manière. Cela est en liaison avec Saint Patrick. Et son nom était en fait Saxkers. Et ce jeune a été kidnappé et il devait suivre quelqu'un qui avait des cochons. Et alors qu'ils étaient comme sur une sorte de bateau, et ce capitaine est tombé très malade et il était en train de mourir là-bas sur l'eau. Et ce vieil homme avec la barbe était couché là et il a encore levé sa main tant qu'il pouvait. Il a posé la question à ceux dans le bateau: est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible? Et il disait: je suis en train de mourir. Alors que j'étais jeune, j'étais chrétien et j'ai été éduqué de manière chrétienne. Mais maintenant je me suis éloigné de Dieu. Est-ce que il y aurait quelqu'un qui aurait une Bible ici? Il y a un jeune homme qui s'est levé et qui a dit: oui, moi j'ai une Bible. Je suis un chrétien. Je porte toujours ma Bible avec moi. Il a dit: fils, viens ici. Il m'a demandé, et il a demandé à ce jeune homme: oui, tu portes toujours la Bible avec toi? Il dit: oui, mon père, ma mère étaient chrétiens, étaient convertis. Et j'ai consacré ma vie à Christ. Il était encore un jeune homme. Et il disait: mais partout où je suis, j'ai toujours cette Bible avec moi. Je la porte toujours sur mon cœur. Il m'a dit: mon fils, lis-moi. Et donc il a dit à ce jeune homme: lis-moi quelque chose avant que je meure. Il a ouvert Ésaïe 53. et il a lu. Comme ici il est écrit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtres ici que nous sommes guéris. Il a dit, oh. Et le jeune homme avait arrêté de lire. Et le vieillard a dit, mais tu ne veux pas continuer à lire? Il a dit, non, non, je n'ai pas besoin. Mais il lui a demandé encore qu'il puisse continuer encore à lire. Alors ce jeune homme a dit, et le jeune homme a dit au vieillard, tu sais comment est-ce que ma mère m'a lu ce verset, verset 5 de Ésaïe 53. Voilà comment elle a lu. Il était blessé pour Vilipuit. Il était brisé pour Bilipuit. Et pour les iniquités de Bilipuit. Et le châtiment de Bilipuit est tombé sur lui pour que Bilipuit ait la paix. Et c'est par ses maîtres cieux que Bilipuit est guéri. Oh, il a dit, ça me plaît. Si tu pouvais aussi mettre mon nom là, si mon nom pouvait être lu là. Il a dit, mais au jeune, est-ce que tu peux aussi lire mon nom dans ce livre, dans ce verset? Il a dit, et il était blessé pour John Cott, pour les péchés de John Cott, et brisé pour les iniquités de John Cott. Le châtiment de John Cott est tombé sur lui pour que John Cott ait la paix. Et c'est par ses maîtres cieux que John Cott est guéri. Et les larmes ont commencé à couler du vieillard. Et il a dit, va chercher. Et le vieillard a dit, va chercher mes vêtements. Jésus-Christ m'a guéri, je suis sauvé. Oh ami, si vous pouviez seulement lire votre nom dans ce verset, si je pouvais seulement lire mon nom, il a été blessé pour les péchés de William Branham, brisé pour les iniquités de William Branham, châtiment, pas assemblé tout cela, mais lui, il a été pour le châtiment, pour mon châtiment, pour que j'aie la paix. Mes châtiments sont tombés sur lui et par ses maîtres cieux, William Branham est guéri. Oh, si nous pouvions mettre notre nom ici, lire avec notre nom, alors quelque chose va se passer, je vous le dis. Croyez, mettez votre nom et lisez cela dans la foi. Et croyez que c'est accompli, vous verrez que cela va s'accomplir. Oui. C'est merveilleux. Et là, alors nous pourrons le recevoir dans la réalité. Si nous pouvions comprendre qu'il a été meurtri pour nos iniquités, pour nos châtiments, pour nos péchés et nos iniquités. Et on le trouve dans Hébreux chapitre 9, que par son sacrifice qu'il a apporté, nous sommes sauvés. Et nous n'avons plus de désir de pécher, mais nous sommes purifiés de toutes les œuvres mortes. Si nous venons sous le sang, alors toutes les traditions qui étaient mortes sont passées. Il nous a ramenés à la vie. Toute votre conscience est purifiée de toutes les œuvres mortes. Oui, Hébreux 9, à partir du verset 11. Si vous le faites, oubliez que vous êtes baptiste et méthodiste, quoi que vous soyez. Vous oubliez toutes vos œuvres mortes et vos traditions mortes et vos doctrines mortes. Vous venez sous le sang. Venez sous le sang et lisez votre nom dans Ésaïe 53 et au verset 5. Et revenez à la table où le souper du Seigneur est partagé. Et vous verrez pour qui est-ce que cela s'est passé, que ce soit pour votre frère. Si vous pouvez inclure votre frère. Non, vous ne pouvez pas le faire. Il y a quelque chose en vous qui ne le permettra pas. Votre nom a été mis là. Ça s'est passé pour vous. Chacun doit le faire. Vous êtes racheté, vous êtes sauvé, comme le meurtrier sur la croix. Il a dit, pensez à moi, quoi que vous soyez, que vous ayez fait, venez à lui, reconnaissez vos erreurs, car il a été blessé pour moi, frappé pour moi, pour mon châtiment. C'est pour moi que c'est maître sûr, pour que j'aie la paix. Que vous soyez baptiste, maîtrisé, quoi que vous soyez, sa volonté est notre volonté. Quoi que vous soyez, chacun peut mettre son nom dans ce verset. Laissons-nous tous croire ce que la Bible dit, ce que la parole dit, parce que les doctrines disent. Et ensemble, nous consacrons, nous approchons du Seigneur en tant que frère. Et tout le reste sera nettoyé, sera mis dehors. Toutes les traditions mortes et les doctrines mortes. Alors, personne ne pourra vous retenir. Que ce soit le presbytérien, que ce soit les évêques ou bien les cardinaux ou bien le pape. Rien ne pourra vous retenir. Vous ne vous souillez plus. Mais maintenant, vous avez pris votre place parmi les frères. Vous avez reçu le pardon sous la même réconciliation. Et vous êtes maintenant frère. Et vous êtes maintenant unis, apportés, ensemble unis, liés les uns avec les autres et avec Dieu. Celui qui est proche de Dieu, il est proche aussi des frères. Comment vous pouvez haïr votre frère que vous voyez et prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas? Selon 1 Jean chapitre 4, les derniers versets. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes alors un menteur et la vérité n'est pas en vous. Et si tu aimes ton frère réellement, tu vas prier pour lui et tu ne vas pas dire quelque chose de négatif sur lui. Jamais. Revenons tous sur le sang de Jésus-Christ et arrêtons de mentir, que nous soyons purifiés et que nous soyons tous des frères. Alors il n'y a plus de division, il n'y a plus d'incompréhension, il n'y a plus d'être en train de parler de quelqu'un et de ceci, cela. Tout le reste, nos différends ne nous intéressent plus. Nous venons sous le fondement commun que nous avons, le sang de Christ. Je me rappelle il n'y a pas longtemps, j'étais passé dans l'endroit où il y a de grands animaux, de grands bétail. Et il y a tout un grand nombre de bétail. Et chaque propriétaire met sa marque sur chaque bête qui lui appartient. Mais ce qui était important, ce n'était pas la marque, mais c'était la même race, le même sang sous lequel la même race d'animaux était. C'était le sang qui était important. Aujourd'hui, on pose la question, ce qui est important pour beaucoup, c'est la marque, n'est-ce pas? Es-tu ceci, es-tu cela? Es-tu baptiste, es-tu méthodiste? De quel groupe tu es, es-tu cela? Non. Nous voyons, on voit de quelle marque les gens ont été marqués. Non, non. Nous sommes chrétiens. Nous avons le sang de Jésus-Christ. Il s'agit de la race que nous avons, pas de la marque. Nous sommes sous le sang. Et tous, nous sommes des frères et des sœurs. En tant que des frères, nous avons le même sang. Nous avons le même sang. Nous avons la même vie qui est dans le sang. Mes frères et mes sœurs, avec la même sincérité devant la face de Dieu, que ce soit prédicateur, que ce soit presbytérien, qui que nous soyons, tous nous apportons, nous plaçons nos mains sur le sacrifice. Et nous nous identifions avec notre sacrifice. Et nous disons, oh Dieu, nous sommes coupables. Nous ne sommes pas dignes du sacrifice que tu as apporté. Mais nous sommes en tant que des frères. Et nous venons tous maintenant devant toi. Toutes disputes sont passées, ont pris fin. Et nous sommes sincères. Et nous avons reçu le pardon, purifié du péché, des traditions, libérées, tout est passé, toutes les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau, que ce soit baptiste, méthodiste, nous oublions ce qui est derrière nous, et nous regardons au but, pour atteindre le but de la vocation céleste, et tout, nous sommes des frères et des sœurs, et ici est la communion, sous le sang. J'ai vu des presbytériens, dans les réunions du plein évangile, des hommes d'affaires, un presbytérien particulièrement, il a loué le Seigneur. Combien connaît Gene Browns? Combien le connaissent? Un presbytérien particulier. Il a parlé en langue. Et il a dansé en esprit. L'un des hommes les plus connus de l'église presbytérienne des États-Unis. Luthériens et d'autres sont venus sous le sang. Et ont expérimenté le Seigneur. Ils ont expérimenté la puissance du sang. Et c'est ainsi que nous sommes tous marqués du même propriétaire. Parce que nous avons la même race. Nous sommes chrétiens. Nous appartenons au Seigneur. Il est notre propriétaire. Nous avons tous ensemble, tous en commun, comme les premiers chrétiens. Il n'y a pas longtemps encore, il y avait un homme et une femme, deux hommes qui voulaient se laisser divorcer. D'abord, ils sont allés chez un psychiatre, l'homme et la femme. Ils voulaient se faire divorcer. Et ils ont essayé de voir ce qu'ils pourraient encore les aider à revenir ensemble. N'est-ce pas? Et ils ont fait tout ce qui était possible pour rester ensemble. Mais toujours de nouveau, ils se disputaient, ils ne s'entendaient pas, il y avait des incompréhensions. Ils ne s'aimaient plus. Ils ne pouvaient même plus se supporter, plus se voir. Et alors, ils étaient en train d'être pas loin de se divorcer. Ils sont donc allés chez l'avocat. Et il a dit, avant que nous allions chez l'avocat pour divorcer, ils ont décidé d'abord de partager tous les biens qu'ils ont, qui reçoit quoi. La maison, etc. C'est ainsi qu'ils sont tous les deux ensemble allés d'abord dans la maison. Lui, il est allé d'abord dans le salon. Et la femme a dit, bon, moi je prends ça. Il a dit, bon, moi je prends ça. Et ensuite, ils se sont disputés de nouveau. Et après, cela a continué comme ça pendant tout un temps. Et après, il a dit, bon, je te donne cela si tu me donnes ça, etc. Cela a commencé et ça a duré longtemps. Et ils sont passés par les différentes pièces, par la cuisine, par les chambres, etc. Et ils ont divisé, ils ont partagé tout ce qu'ils avaient parmi eux. Et ensuite, ils sont arrivés en haut, au grenier. Là-bas, il y avait encore différentes choses. Chacun a reçu quelque chose. Ils se sont partagés. Et ensuite, les deux ont vu quelque chose. Et ils se sont les deux sautés là, ils ont sauté là-dessus. Et vous savez ce que c'était? C'était les effets de leur enfant. C'était une paire de chaussures qui appartenait à leur à leur bébé qui avait été mort, qui était mort. Quelques semaines ou bien mois après la semaine, après la naissance. Et c'était donc une paire de chaussures de cet enfant qu'ils avaient perdu. Et c'est à cause de ces chaussures que leurs deux mains se sont allées l'un dans l'autre. Parce que chacun voulait prendre le plus rapidement la chaussure. Et en fait, comment partager ces chaussures? Elle leur appartient à eux deux. Et ils avaient ici quelque chose de commun. Il y a quelques minutes, les deux se sont regardés et ils ont commencé à pleurer. Les larmes ont coulé. Ils ont pu partager tout le reste, tout ce qu'ils avaient dans la maison. Mais maintenant, ils sont arrivés à cette chaussure qu'ils avaient en commun. Tout ce qui leur restait de cet enfant perdu, qui était déjà au ciel. L'enfant, un enfant à son âge, est au ciel quand il meurt. Et alors, leur dispute ont pris fin en quelques secondes. Ils étaient déjà, ils se sont serrés dans les bras. Et la décision de se divorcer n'a plus eu lieu, n'est plus rentrée en question. Et ils ont pu vivre en paix tout le reste de leur vie. Bien, mes frères et sœurs, ce que nous avons en commun nous laisse vivre en paix. Il ne s'agit pas ici de devenir membre de cette assemblée et l'un de l'autre assemblée. Nous avons quelque chose de commun. Jésus-Christ, c'est lui que nous avons en commun. Il est tout pour nous. Nous ne pouvons pas tous comme ça être devenir baptiste, méthodiste et quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas tous devenir. Mais nous avons une chose que nous avons en commun. C'est le pardon. Dieu nous l'a accordé. Car tous nous sommes nés dans le péché, tous privés de la gloire de Dieu. Et Dieu nous a accordé le pardon en Jésus-Christ, dans son Fils, seul argenté de lui. Nous avons tout en lui. Mais ça, c'est la première chose que nous devons accepter. Si nous avons accepté ce pardon que Dieu nous a accordé, pas par l'instruction, par les dénominations, mais par le sang de Jésus-Christ. Tous, nous allons à la croix. Nous pouvons être un et avoir tout en commun. Croyez-vous cela? C'est très important, comme c'est écrit dans Jean 11, verset 52 et Jean 12, verset 32. Oui, Jean 11, verset 52. Nous voulons maintenant prier. Maintenant, il y a un parler en langue que nous ne pouvons pas comprendre. Nous voulons courber nos têtes et dire Seigneur, avec un cœur courbé, nous voulons aussi nous lever ici. Nous voulons nous poser la question, est-ce que je suis juste, est-ce que je suis faux, que le Saint-Esprit puisse sonder mes pensées, est-ce que mes actions sont justes ou bien fausses? Combien veulent que je puisse penser à eux dans la prière maintenant? Nous voulons tous venir sous le sang, être sous le sang, sous la réconciliation. Et ensuite, c'est ainsi que nous serons purifiés de toutes choses. C'est écrit dans 1 Jean chapitre 1, que si nous avons communion commune, mutuelle les uns avec les autres, c'est ainsi que le sang de Christ nous purifie. Nous voulons dire au Seigneur, pardonne-moi, pense à moi. Nous n'avons plus beaucoup de jours à vivre sur cette terre. Hein? Il y en a qui disent, oh, je suis encore jeune. Non, frères et sœurs, il y en a encore beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pourront mourir. Non, nous ne savons pas quand nous pourrons aller, mais si nous prétendons marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, il s'agit ici de marcher dans la lumière. Et c'est seulement comme ça, en étant en communion mutuelle. Oui, venons au Seigneur et disons, ô Seigneur notre Dieu, que tu puisses purifier ma vie. Oui, confessons que nous n'avons pas encore reçu l'Esprit de Dieu, mais nous voulons le recevoir, que nous puissions vraiment devenir une nouvelle création, que le monde, l'esprit du monde, la façon de vivre dans le monde, d'être, est passé. Je lève pas mes mains vers Frère Branham, mais vers toi, je regarde à toi, pas Frère Branham, mais à toi. Je veux recevoir le signe que le sang a été appliqué. Levez vos mains si je dois prier pour vous. Il faut que vous ayez la preuve en vous que le sang a coulé pour vous, c'est-à-dire la vie qui est dans le sang doit être en vous. Lévitique chapitre 17, verset 11. Dieu veut voir la vie du sang en vous, par la puissance du sang. Oui, cela ne vous sauve pas. Ce n'est pas autre chose qui vous sauve, c'est seulement le sang qui vous sauve. Ce n'est pas d'être représenté par quoi que ce soit, mais le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui vous représente. C'est ce sacrifice à votre place. Et vous devez dire, j'accepte ce sacrifice à ma place, que Dieu me fasse grâce. Peut-être qu'il y a encore des membres d'assemblée ici qui sont déjà, qui appartiennent à l'assemblée de manière sincère. Je crois qu'ils sont sincères. Mais vous direz, bien mes frères, madame, mon cœur n'est pas entièrement purifié de tout. Peut-être que si quelqu'un dirait quelque chose contre l'assemblée dans laquelle je suis, oh, déjà je suis en colère. Et je ne peux pas supporter d'entendre quelque chose de mal. Non. Mais levez les mains si vous voulez que Dieu vous accorde. Sinon vous avez besoin, c'est bien. Vous êtes toujours en colère et vous avez encore votre tempérament. Non. Priez que de recevoir la nature de l'agneau et que la vie de l'agneau et que le sang de Jésus-Christ vienne sur moi. Il faut que le signe descende. Et le Saint-Esprit, c'est le signe. Quel est le signe que le sang a été appliqué? Vous savez que le jour de la Pentecôte, cela est accompli. C'est accompli que par la Pentecôte dans Actes chapitre 2 a été confirmé que Golgotha a eu lieu réellement et qu'il est monté avec son sang dans le sanctuaire céleste. Et c'est ainsi que si vraiment vous identifiez à votre sacrifice, la même chose va s'accomplir avec vous. Ça c'est certain. Jésus a dit, je donne la promesse à vous et à vos enfants et à tout ce que le Seigneur appellera. C'est une promesse. Une promesse. C'est une promesse véritable. Elle est véritable. C'est ainsi que tel que ta maison est ta maison et ta voiture est ta voiture et que 10 cents sont 10 centimes et 5 centimes sont 5 centimes. C'est ainsi que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit est encore aujourd'hui le Saint-Esprit. 5 cents, ça reste 5 cents, ça reste le même. C'est ainsi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous n'avez pas encore fait cette expérience de la Pentecôte, levez vos mains alors que nous prions. Père Céleste, nous savons que le soleil va très vite vers son déclin et que le temps va bientôt passer un jour. La voix de l'archange va être entendue comme c'est écrit dans 1 Timothée 4, dans 1 Thessaloniciens 4. Elle viendra de l'éternité et les trompettes de Dieu retentiront. Et chaque homme et chaque femme vont devoir rendre compte et apparaître devant le trône du Christ de ce qui savait étant vrai dans la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un étalon par lequel tu jugeras. Et nous ne pouvons pas prendre le chalon de notre église ou bien de notre dénomination. Non, nous allons manquer le but. C'est pour cette raison que nous serions égarés et nous ne savons pas ce que et nous serons de la confusion et nous ne saurions pas ce que nous devons faire. Mais il y a un étalon, c'est ta parole. Et ta parole dit que si ce n'est que quelqu'un naisse d'en haut, sinon il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas comprendre les choses du royaume de Dieu. Il faut d'abord qu'il puisse recevoir dans la foi et naître d'en haut et pour pouvoir comprendre les choses du royaume de Dieu et avoir part aux choses du royaume de Dieu. Nous prions aujourd'hui que tous les mains qui se sont levées dans tout le bâtiment, les hommes d'affaires chrétiens de la ville et des femmes et des jeunes et tous ceux qui vont être réunis ici, je crois que dans la sincérité, ils ont levé leurs mains. Ils ne l'auraient pas levé, ils n'auraient pas pu le faire s'il n'y avait pas une conviction en eux et que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a actionné cette conviction en eux. Et nous sommes convaincus qu'ils veulent vraiment sortir de tout ce qui est faux et être sincères pour ne pas un jour être éloignés de toi. Mais un jour, ils vont devoir te rencontrer et rendre compte. Mais maintenant, ils veulent être sincères, ils sont sincères. Et je viens devant toi pour eux, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur, aujourd'hui, que pas une seule main qui s'est levée, pas une seule des mains n'entrera dans le repos jusqu'à que le Saint-Esprit ait rempli leur vie. Que le Saint-Esprit remplisse leur vie. Je te demande de les agréer en tant que le salaire de tes souffrances que tu as accomplies à Golgotha. Ô Seigneur Jésus-Christ, sauve les pécheurs, remplis-les de ton Saint-Esprit, tel que Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, remplis leur âme par ta vie, que tu puisses toi-même recevoir toute la gloire pour cela. Jésus-Christ a dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est que mon Père l'attire d'abord. La foi vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a été prêchée et la foi a été créée par la parole. C'est-à-dire que parce qu'ils ont entendu la parole et maintenant ils ont été attirés à toi. Par la Bible dit que tout ce qu'il a connu à l'avance, il les a aussi déterminés. Et tout ce qu'il a déterminé, il les a aussi appelés. Et tout ce qu'il a appelé, il les a aussi glorifiés. Il leur a donné la vie éternelle au commencement, avant que le monde même existe. C'est ainsi que tu as écrit leur nom dans les livres immolés de l'agneau. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit les a appelés et ils ont levé leurs mains. Seigneur, accorde-leur la vie éternelle. Je te le demande pour l'honneur de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse venir sur eux et qu'ils soient circoncis de toutes leurs œuvres mortes dans leur cœur. Et accorde-leur un véritable pardon et qu'à partir d'aujourd'hui, ils puissent vraiment être convaincus du pardon de leurs péchés et qu'ils aient en eux la preuve du sang versé. Et qu'ils puissent arrêter de vivre comme ils ont vécu comme c'est dans la nation sans morale, avec les cheveux coupés et les visages maquillés et les habits bizarres, que le Saint-Esprit puisse vraiment accorder le saint, le feu saint du Saint-Esprit sur eux, d'une manière qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et du feu, et qu'ils puissent adresser la parole à chaque pécheur qu'ils rencontrent. Oh Dieu, accorde-le, que cela se passe, pour que d'autres aussi puissent recevoir le pardon. Faites-le pour les baptistes, pour les méthodistes, pour les pentecôtistes, pour tous. Ils t'appartiennent tous. Je te les redonne, je te les donne, et je te demande, je te les remets. Je te prie pour accorde-le à chacun. De Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.